Bonjour et bienvenue sur Antithèse Radio, je suis Angèle Rémy et pour ce podcast pour la journée nationale anti-harcèlement du 9 novembre, je serai accompagnée de Madame Arnoldi, CPE du lycée Thomas Edison, en tant que chroniqueuse.
Merci Angèle, donc très contente d'être là. Alors, tu nous proposes quoi? On fait un petit tour de table?
Alors, on va faire un petit tour de table de qui nous accompagne pour cette journée.
Ouais.
Donc, on commence avec Cerise.
Bonjour à tous. Moi, c'est Cerise Coy de Brunelis. Je suis en terminale 2 et je suis ambassadrice contre le harcèlement. À votre service.
Lilou.
Bonjour, je suis Lilou Molina. Je suis en première 7 et je suis ambassadrice anti-harcèlement.
Ainsi que Elisa.
Bonjour, donc moi, je m'appelle Elisa Cagnoli. Je suis en terminale générale 3 et voilà, j'ai 17 ans et je suis ambassadrice anti-harcèlement.
Ainsi que Manon.
Bonjour, donc moi c'est Manon, j'ai 17 ans aussi et je suis en terminale G3 également comme Elisa et je suis ambassadrice cette année contre le harcèlement.
Ainsi que Caroline Owers, professeure.
C'est ça, donc j'enseigne l'anglais à la cité scolaire depuis plusieurs années avec beaucoup de plaisir et j'ai été formée à la méthode de la préoccupation partagée par Madame Arnoldi l'an dernier avec un groupe de collègues. Et j'ai souhaité renouveler mon engagement cette année parce que la souffrance d'élèves intimidés ou victimes de harcèlement m'est insupportable et j'ai envie d'agir à mon niveau.
Et nous avons aussi l'honneur de recevoir Monsieur Andrés, chef d'établissement.
Bon, effectivement, je suis Didier Andrés, je suis le chef d'établissement de la cité scolaire de Lorgues depuis le 1er septembre 2023 et je suis très préoccupé par les sujets liés au harcèlement.
D'ailleurs, c'est par vous qu'on va commencer. En tant que chef d'établissement, que représente la journée contre le harcèlement et qu'en en attendez-vous?
Alors, cette journée de lutte contre le harcèlement est une journée importante parce qu'elle permet de fixer les esprits et de donner un caractère solennel à une journée dans l'année scolaire. Elle permet de mobiliser les équipes, elle permet de mobiliser les élèves et de faire de la communication auprès des usagers et de toute la communauté scolaire.
Alors justement, est-ce que vous pourriez rentrer un petit peu plus dans le détail et nous dire quelles sont les actions prévues pour cette journée? Aider naturellement éventuellement de nos collègues ambassadrices.
Alors grâce à vous, Madame Arnoldi, et à votre pilotage, on a prévu de sensibiliser l'ensemble des élèves à travers une action des professeurs sur un créneau horaire bien défini à partir de ressources qui ont été fournies. Nous avons également prévu de diffuser peut-être une ou deux vidéos sur le temps méridien à la cantine.
Alors on va commencer d'abord, est-ce que quelqu'un pourrait donner sa définition de qu'est-ce que c'est que le harcèlement?
Alors moi je vais peut-être procéder différemment ou répondre à une autre question. Oui. La principale préoccupation d'un chef d'établissement, c'est l'épanouissement de ses élèves. Qu'un élève ait envie de venir dans l'établissement tous les jours. Et donc, c'est pour un chef d'établissement créer les conditions favorables à cet épanouissement. Lorsqu'un élève est victime d'intimidation ou de harcèlement, il est en souffrance. On n'est plus dans l'épanouissement, on est dans la souffrance. J'ai envie de présenter les choses sous cette forme-là. D'où le rôle des chefs d'établissement et des équipes qui l'encadrent, qui l'entourent, pardon. Parce que sans les équipes, le chef d'établissement ne peut rien faire. Il faut l'adhésion d'un maximum de personnel concerné par cette difficulté majeure.
Est-ce que quelqu'un pourrait donner sa définition de qu'est-ce que c'est que le harcèlement? Oui, on t'écoute.
Le harcèlement, c'est des actions négatives menées sur un individu, par un groupe ou un individu. Et en fait, ça peut avoir des répercussions hyper négatives et ça peut mettre vraiment la personne au fond du trou. Et c'est à répétition. Sur une certaine durée. Et du coup, voilà, il a une incapacité à répondre, on va dire, à se défendre lui-même. Et donc, ça peut être hyper dangereux. Et c'est pour ça qu'on est là.
C'est-à-dire que vous partagez donc, le point de vue du chef d'établissement sur le fait qu'il y a souffrance et que cette souffrance, elle doit cesser à un moment ou à un autre.
Oui, oui.
Alors, tu parlais tout à l'heure, Lisa, donc des répercussions. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des conséquences que peut avoir le harcèlement sur une personne?
Donc les conséquences que le harcèlement peut avoir sur une personne, c'est tout d'abord l'isolement, le fait qu'une personne se sente vraiment seule et commence par croire en fait tout ce qu'on lui répète tous les jours. Par exemple, qu'elle est nulle, qu'elle sert à rien ou que le monde serait peut-être mieux sans elle, en fonction de ce qu'on peut dire à cette personne. Donc tout d'abord, on peut voir de l'isolement. Ensuite, peut-être un mauvais comportement de cette personne, où là, il faut distinguer peut-être un appel à l'aide de cette personne qui veut se faire aider. Et après, bien sûr, des faits plus dramatiques. On peut parler des personnes qui vont se faire du mal ou même s'enlever la vie parce que le harcèlement a des conséquences vraiment énormes et horribles. Et c'est pour ça qu'il faut qu'un maximum de personnes prennent conscience des risques du harcèlement et qu'il ne faut pas reproduire. Voilà.
Donc effectivement, ce qu'on dit très souvent, c'est que ça entame l'estime de soi. Et que progressivement, le jeune se faisant entre guillemets attaquer à longueur de temps perd cette confiance et va commencer plus ou moins à s'isoler. Et ça peut aller jusqu'à un début de déscolarisation, ça peut aller jusqu'à la dépression. Et effectivement, dans certains cas vraiment dramatiques, certains attentent à leur propre vie. Parce que ça devient vraiment trop lourd à porter. D'où l'importance, effectivement, d'avoir des propositions pour venir en aide à ces jeunes. Madame Owers.
Oui, je voulais juste souligner le fait qu'il me semble qu'il doit y avoir un moment de flou dans l'esprit de la personne qui est harcelée, à un moment donné où la personne se demande si il s'agit de camarades qui cherchent à l'inclure d'une manière un petit peu brutale dans leur groupe, ou si on est sur quelque chose de plus grave, sur de l'intimidation ou du harcèlement. Et il me semble que le moment... là est un moment très, très particulier, certainement, dans l'esprit de la personne qui est victime de cela, parce que c'est un moment de questionnement et on ne sait pas comment se positionner par rapport aux autres, au collectif, au groupe, à la classe, aux camarades. On ne veut pas non plus tomber dans une psychose. Et je pense que ça ne doit pas être simple de se rendre compte, d'être certain qu'on est victime de harcèlement. C'est pour ça aussi que c'est vraiment important qu'on en discute, parce que c'est quand même quelque chose de très répandu, qui arrive à beaucoup de jeunes. Et je pense que beaucoup de jeunes subissent quelque chose qui ressemble à du harcèlement sans forcément s'en rendre compte. Voilà, donc on évoquera peut-être certains signaux au cours de l'émission, je ne sais pas.
Manon ?
Je pense que vous voulez parler d'harcèlement banalisé peut-être.
Oui, certainement.
Que les élèves qui souffrent, ils sont tellement habitués à cette souffrance que même les personnes autour ont, on va dire, l'habitude que ce soit ces personnes qui soient embêtées. Et à la longue, c'est difficile de faire la différence entre simplement des taquineries entre camarades ou du harcèlement.
Et moi, je pars du principe que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que quand une personne, elle est vraiment en souffrance à tel point de se demander si elle est harcelée, c'est qu'elle est harcelée, c'est qu'elle souffre, c'est qu'il y a de la souffrance, c'est qu'elle se pose des questions. Donc, je pense qu'il n'y a même plus de questions à se poser, en fait.
Mais là, ce que vous appuyez sur un point qui me paraît tout à fait essentiel et qui explique peut-être que quelquefois, la personne, la cible, comme on l'appelle, elle n'ose pas venir parler. Parce que elle peut effectivement se poser la question, mais est-ce que c'est pas moi qui vais mal? Est-ce que c'est pas moi qui effectivement suis suffisamment différent des autres ou différente? Et donc, quelque part, c'est de ma responsabilité. D'où l'importance, effectivement, de bien dire à tous les jeunes, comme tu viens de le dire, Elisa, que non, il y a des propos qui sont intolérables. Quand on essaye d'abîmer la réputation de quelqu'un, quand on s'en prend à une personne, ça ne devrait pas être tolérable dans un établissement scolaire. Et il n'y a même pas, comme tu le disais, presque de questions à se poser, c'est non. J'ai le droit d'être là, j'ai le droit de pouvoir poursuivre ma scolarité dans les meilleures conditions possibles, et je n'ai pas à être la cible de personnes qui, peut-être, dans leur esprit, c'est pour rire. Au départ, c'est peut-être pas volontairement pour vouloir faire du mal, mais qui, quand même, par leurs paroles répétées, vont saper, comme on disait, l'estime de quelqu'un.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un qui est harcelé et qui aurait peur des représailles ?
Moi, je pense que cette personne-là, c'est normal qu'elle ait peur des représailles. Mais après, si elle a peur des représailles, c'est peut-être parce que l'harceleur en question... c'est peut-être une personne qui est assez dangereuse et du coup ça peut arriver à d'autres personnes, donc c'est hyper important d'en parler. Et puis celui qui devrait vraiment avoir peur des représailles ou des sanctions, c'est l'harceleur, parce que il y a quand même c'est quand même puni par la loi. Et du coup voilà, et je pense qu'une personne qui est harcelée, elle a pas à avoir honte, c'est pas à elle d'avoir honte, c'est pas à elle de se cacher, c'est à elle d'en parler et de faire en sorte que ça arrive plus, que ça arrive plus à d'autres personnes, quoi, que ça arrête d'être banalisé.
Est-ce que les personnes victimes de harcèlement peuvent faire, entre guillemets, pour avoir une première démarche dans un fait de sortir de ce harcèlement, c'est de se rapprocher des personnes, on va dire, qui ont une formation bienveillante, c'est ça. Donc, peut-être auprès de leurs amis, et si ces personnes se sentent vraiment seules ou même pas, si elles ont besoin de parler, il y a les ambassadeurs contre le harcèlement. Donc, il y a des posters avec nos photos et nos prénoms, tout ça, qui sont un petit peu partout dans le lycée. Et on a tous reçu une formation, du coup, contre le harcèlement. Et donc, on est disposé à recevoir des personnes et à discuter avec eux pour envisager des solutions, tout ça, et de les accompagner dans leur démarche afin qu'ils ne soient pas seuls. Et ensuite, il y a aussi des professeurs et les CPE qui sont formés à tout ça et qui sont aussi bienveillants que nous et qui sont aptes à vous écouter et à vous aider.
J'ai envie de dire qu'il y a deux situations. Il y a la personne qui est harcelée, qui en prend conscience à un moment donné et donc qui va peut-être faire une démarche. Et elle va certainement se tourner vers une personne, un adulte, un élève ou voire un parent qui va pouvoir l'entendre, l'écouter et agir. Et l'autre situation, c'est une personne qui est harcelée, mais qui s'en rend pas compte, mais son entourage s'en rend compte. Et c'est donc son entourage qui va alerter encore, qui va être le relais, qui va alerter encore une personne, soit d'autorité ou autre, qui pourra prendre le relais et essayer de résoudre cette situation. Et le harcèlement, ben, ça s'arrête pas dans le temps. C'est-à-dire qu'on parle de harcèlement, mais il y a un temps scolaire, et il y a un temps en dehors de l'école aussi, dans les transports, au domicile, pendant les vacances. Donc, le harcèlement peut se poursuivre en dehors de l'école, bien sûr. Et en dehors de l'école, ben, d'autres personnes peuvent aussi écouter une personne en souffrance, victime du harcèlement, et notamment les parents. C'est vrai que c'est pas simple, parfois, de parler à ses parents, mais les parents, ensuite, viennent nous rencontrer. Il y a plusieurs situations, il faut essayer d'aborder tous les cas de figure.
Moi, je me permets de rebondir pour dire que dans notre établissement, donc, il y a des instances. Et ça va être l'occasion aujourd'hui de les rappeler. Donc, il y a, comme vous l'avez dit, les ambassadeurs élèves. Donc ça, c'est très important. Quelquefois, le jeune peut avoir des difficultés à venir parler à un adulte parce qu'il a peur du jugement, parce que, voilà, pour X, c'est une raison. Et peut-être peur des représailles, parce que ça, c'est une réalité. Quand on demande aux victimes, en règle générale, elles mettent devant cet argument. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer si je parle? Et si ça se trouve, la situation va empirer. C'est important de pouvoir parler à des camarades du même âge. Déjà, ça peut leur permettre de vider leur sac, de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Les ambassadeurs, mais on y reviendra, je pense que vous êtes formés justement pour pouvoir repérer des signaux et puis servir de lien entre le jeune qui vient vous parler et justement les adultes. Donc vous êtes, les ambassadeurs, c'est vraiment une instance excessivement importante dans notre établissement. Et puis il y a la fameuse cellule, la CEA, excusez-moi, cellule d'écoute et d'action, pardon, constituée par des enseignants. Effectivement. Et là, je me tourne vers Mme Ouers qui va peut-être pouvoir nous en dire quelques mots.
Oui, alors, en fait, je vais rejoindre les propos de vos ambassadeurs qui sont des jeunes, qui sont formés, qui sont motivés. Là, je les vois devant moi. Ils sont super, donc il ne faut pas hésiter à aller leur parler. Sachez que nous, les adultes, c'est pareil. Donc, on a formé une cellule. Le nom peut paraître peut-être intimidant. Au fond, on est juste une équipe d'enseignants qui sommes prêts à dégager du temps pour vous. On se forme aussi pour savoir comment gérer les situations. Sachez que si vous avez peur de vous adresser à la mauvaise personne, si vous ne savez pas exactement comment vous y prendre, nous, les ambassadeurs jeunes, les ambassadeurs adultes, on saura toujours vous aiguiller. Et vous vous dirigez en fait vers la bonne personne, vous retomberez toujours sur la bonne personne. Donc concernant la cellule constituée par des adultes, donc nous sommes tous des adultes qui travaillons dans la cité scolaire et nous sommes tous animés par le même souhait de désamorcer et surtout de régler des situations qui pourraient amener à des souffrances. L'objet de la manière dont on vous accompagne, si vous présentez à nous, déjà, c'est de vous écouter, de vous rassurer, de bien comprendre, de prendre la mesure de la situation à laquelle vous êtes confronté et puis de vous amener vers, vers une résolution. Et pour rebondir sur la notion de représailles, encore une fois, nous sommes formés à accompagner ce type de cas d'intimidation, de harcèlement. Et donc, tout est fait de notre côté pour que les représailles ne puissent pas avoir lieu, tout simplement.
Alors, je suis un élève et effectivement, je veux entrer en contact avec un de ces enseignants. Je fais comment ?
Alors, comment faire ? Déjà, il faut nous identifier sur les posters. Sur le poster, on vous fait un sourire, donc avec un petit peu de chance, on ne vous fait pas peur.
Ils sont où ces posters ?
Alors, les posters, normalement, on peut les trouver un petit peu partout dans la cité scolaire. Je pense qu'il doit y en avoir un au CDI, à la vie scolaire, dans les couloirs. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Soit il y a un enseignant que vous connaissez, avec lequel vous vous sentez à l'aise, allez vers l'enseignant-là. Soit vous ne connaissez aucun des enseignants, mais vous nous avez déjà vu passer, vous nous reconnaissez, bah, n'hésitez pas à nous interpeller. On dégagera du temps, on trouvera un moment.
Et, alors, j'ai cru comprendre que vous aviez une petite boîte aux lettres.
Alors oui, tout à fait. On a un casier, donc là où se trouvent tous les casiers des enseignants. Donc vous verrez, c'est un casier qui se démarque parce qu'il est décoré d'un poster avec des roses. Voilà, un poster, très joli poster. Et donc c'est dans ce casier-là. Si vous préférez un contact indirect, vous pouvez tout simplement nous écrire et nous, on reviendra vers vous. Et si vous vous demandez comment trouver un certain enseignant, enseignants que vous ne croisez pas, eh bien tout simplement allez en vie scolaire et on vous donnera un créneau, un moment, on vous dira où se trouve l'enseignant et vous nous trouverez.
Merci, ce sont vraiment des informations capitales. Alors je vais demander la même chose aux ambassadeurs. Donc comment vous trouvez, comment faire pour vous contacter?
Pareil, on a nos photos à la vie scolaire, au CTI, à l'administration. Donc, il y a nos noms, nos prénoms, nos classes. Donc, pareil, je pense que c'est possible qu'on aille voir la vie scolaire, enfin, qu'une des victimes, ou même un témoin, aille voir la vie scolaire pour demander quand est-ce qu'on a cours et pour pouvoir savoir où on se trouve. Et puis, voilà, pareil, on est formé. Si on est là, c'est qu'on est engagé, qu'on a envie que ça aille mieux, qu'on a envie que tout se passe bien et du coup, on est vraiment prêt à aider, quoi. Donc, voilà.
J'aurais voulu rajouter un petit point parce que je me mets à la place d'un élève qui se dit, bon, hein, c'est le moment, il faut que je parle à un adulte, il faut que je parle à un ambassadeur élève, qui se retrouve devant le poster et qui se dit, mais si je prends la parole, toutes les personnes du poster vont savoir ce que je vis, vont connaître mon état de détresse, plus ou moins important. Et c'est pas forcément souhaitable pour vous. Peut-être qu'il y a des enseignants sur le poster ou des ambassadeurs du poster que vous connaissez. Et peut-être que vous ne souhaitez pas que toutes les personnes du poster soient au courant. Sachez que lorsqu'un cas se présente, il n'est pas diffusé de manière indiscrète. Forcément, à toute l'équipe, on est capable de faire la part des choses, de respecter tout simplement... la confidentialité et puis en fonction de la situation, on sera capable de savoir quelles personnes de la cellule doivent être informées et puis dans le cas où nous serions une majorité à être au courant du cas, on est tous formés pour ça et au niveau de la confidentialité, rien ne sortira de la cellule adulte ou élève.
Est-ce qu'on peut poser des questions en restant anonyme ?
Alors là, je me permets de rappeler aussi les deux numéros nationaux qui vont bientôt fusionner, je crois, pour en devenir qu'un seul. Donc il y a le 30-20, quelqu'un qui est témoin ou qui subit du harcèlement et qui, malgré ce qui est mis en place dans un établissement, n'est pas encore complètement convaincu, peut tout à fait, de manière anonyme et gratuitement, composer le 30-20. Là, il va tomber sur des professionnels qui vont lui donner toute une série, entre guillemets, de conseils. Et puis, s'il s'agit de cyberharcèlement, par contre, ça sera le 30-18. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. On a encore quelques craintes. On voudrait pas que ça s'ébruite au sein de l'établissement. On compose déjà aussi ces deux numéros. Et sinon, anonymement, mais bien sûr, comme Madame Owers le disait, donc ils ont une petite boîte aux lettres. Alors, il faut quand même mettre le nom parce qu'on ne va pas laisser quelqu'un en souffrance écrire ce qu'il a à écrire sans qu'on puisse ensuite avoir un contact avec lui pour le rassurer. Mais ça restera entre guillemets. Enfin, voilà, les enseignants travaillent de manière suffisamment discrète l'intime ne soit pas divulguée à d'autres personnes que celles qui sont responsables pour régler le cas.
Alors, je voulais rajouter effectivement pour la question précédente. Donc, effectivement, il y a une affiche qui est aussi devant la cafétéria et la cantine. Vous pouvez aussi nous trouver dans les couloirs, genre même si vous nous voyez simplement, venez nous voir, n'hésitez pas, on prendra forcément du temps pour vous. Quoi qu'il arrive, peu importe le moment... Même si vous avez une hésitation, n'ayez pas d'hésitation. Venez vers nous, venez nous voir, n'hésitez en aucun cas.
Merci d'insister, parce que un des gros problèmes, hein, c'est justement la solitude dans laquelle se trouve, entre guillemets, ce qu'on qualifie de la cible. Et un des moyens pour rompre cette problématique, c'est justement de sortir de cet isolement. Et ça, à partir du moment où le jeune accepte, peut avoir confiance soit en des jeunes, soit en des adultes, alors c'est le début de l'amorce de sortie de cette situation si difficile. Mais voilà, c'est ça. C'est ne pas rester seul avec son trouble, avec sa peine, avec sa souffrance. Il faut absolument accepter de la partager. Et à partir de ce moment-là, des choses vont pouvoir éventuellement se mettre en place. Est-ce que on m'a parlé que peut-être vous aviez l'intention, les ambassadeurs, de mettre en place un point écoute? Vous pouvez en parler un peu?
Oui, du coup, ce serait à l'infirmerie. On a une salle, je crois, qui est déjà dédiée. Et du coup, on n'a pas encore mis ça en place, etc. On n'a pas tout ce qui est à côté. Mais ce serait bien d'en faire un pour qu'on puisse être là et qu'on puisse écouter s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des élèves qui arrivent. Bien évidemment, on sera formés. Et je pense que ce serait une bonne solution de mettre ça en place.
Quand ça sera mis en place, on aura des horaires dédiés, donc par des affiches, par Internet, par les réseaux. On vous fera savoir quand est-ce qu'on est disponible. Je ne sais pas si on peut le rajouter, mais quel ambassadeur est présent à l'endroit précis pour être là, pour vous écouter. Donc, ce n'est pas tout le temps ouvert. Il y a des horaires, parce qu'on a quand même cours, vous aussi. Mais on est quand même là, à votre disposition. Et on fait ça pour vous.
Alors, on voit beaucoup de personnalités qui disent avoir été harcelées. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas en France?
Alors oui, il y a énormément de cas en France. Et beaucoup de personnalités qu'on connaît. Par exemple, des chanteurs, des chanteuses qu'on écoute tous les jours. On n'était pas au courant. Je vais prendre des exemples comme Louane, la chanteuse qui a été harcelée. Il y a aussi Mika. Il y a l'influenceur Bilal Hassani. Il y a la youtubeuse Léna Mafouf, il y a la chanteuse Clara Luciani. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnalités françaises qui ont déjà été harcelées. C'est vraiment quelque chose qui est banalisé, l'harcèlement. Donc, il y a vraiment plein de gens qui ont déjà subi ça.
Quelles sont les classes où il y a le plus de cas de harcèlement?
Alors, on retrouve le plus de cas de harcèlement, notamment en primaire et au collège. C'est les classes et l'âge où tout le monde est en train de se construire et tout le monde veut un petit peu jouer au plus fort et certains trouvent que c'est drôle de s'affirmer, certains pensent que c'est une façon de s'affirmer et de montrer qu'on est fort, tout ça, d'harceler les autres, mais ça a tout autant des conséquences dramatiques.
Alors on dit qu'il y a entre 800 000 et 1 million de jeunes scolarisés, donc depuis l'école primaire, depuis même la maternelle, jusqu'au bac, qui effectivement sont harcelés chaque année. C'est quand même énorme, sur 12 millions de jeunes scolarisés. Mais dans l'Académie de Nice, l'an dernier, donc en 2022-2023, il y a eu recensé 918 cas de harcèlement. Donc, essentiellement, effectivement, comme on l'a dit, école primaire et collège. Sur ces 918 cas, il y en a 744 qui ont pu être traités grâce à des équipes, des cellules d'écoute. Ça représente quand même 81% des cas qui sont réglés par les adultes. Et il y a eu 55 cas qui ont été judiciarisés. Ça veut dire que là, il y a eu un échec total. C'était du harcèlement suffisamment lourd. Et c'est la justice qui a dû intervenir pour mettre un terme à ces situations.
Et ça encore, c'est les cas qui sont reconnus. Parce qu'il y a des cas... Il y a énormément de cas qui ne sont pas reconnus et il y a des fois, on ne le sait même jamais que la personne elle a été harcelée.
Monsieur Andrés, vous voulez dire quelque chose ?
Justement, pour rebondir sur ce qu'il y a d'être dit, au collège, on a vécu deux situations de harcèlement ces 7 premières semaines de cours. Là. Et je ne dis pas qu'on est arrivé trop tard, mais le mal a été fait, c'est-à-dire que les élèves, les deux élèves en l'occurrence, n'arrivent plus à revenir au collège. On n'a pas eu l'information suffisamment tôt, c'est pas remonté jusqu'à nous et ça a été très rapide. Alors une fois qu'on a eu l'information, ben, on a mené une enquête et on a entendu les personnes concernées, on a même prononcé des sanctions. Mais voilà, c'est pas toujours une situation simple au niveau de la temporalité. Quand on a les premiers signaux faibles qui arrivent, ben on est en mesure peut-être de mettre en place une action, une méthode de préoccupation partagée ou autre. Mais lorsque la situation est rapide, elle n'est pas connue, qu'à un moment donné, il y a cassure en fait, hein, l'élève ne veut plus revenir. Entre autres, là, c'est le décrochage complet. Hein. L'impossibilité de revenir dans l'établissement. On est dans une autre phase et c'est plus compliqué pour nous. On l'a vécu deux fois cette année au collège.
Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il existe des ambassadeurs au collège ?
Alors, je pense qu'on doit les former, les ambassadeurs au collège. Je n'ai pas la réponse exacte. Je n'ai pas une connaissance complète encore du fonctionnement du collège. Mais il y a une équipe phare. Si on peut en parler déjà, une équipe d'adultes phares. Et les ambassadeurs, je ne sais pas si l'année dernière, Madame Arnoldi, vous étiez présente dans l'établissement, il y a eu une formation des ambassadeurs du collège, mais je n'ai pas l'impression.
Alors, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la cité scolaire est quand même partagée en deux mondes, donc d'un côté le collège et d'un côté le lycée. Moi, je peux répondre par rapport au lycée, mais malheureusement, je ne sais pas réellement ce qui se fait au niveau du collège. Ce qu'on peut dire, je pense, il y a un changement de paradigme. Alors, il y a encore quelques années, malheureusement, en France, on a un petit peu tardé. Effectivement, on ne reconnaissait pas facilement le harcèlement. Hein. C'était même, mais moi j'ai connu ça quand j'étais élève, il faut qu'il apprenne à se défendre, il faut qu'il devienne fort, etc. Et s'il n'y arrive pas, c'est de sa faute. C'était quand même, ça a été très longtemps ça. On a vu malheureusement les conséquences que ça a pu avoir, puisqu'il y a eu des décès hein, de jeunes. Et là, forcément, le gouvernement... le législateur, entre guillemets, a changé. Et c'est là, il a changé de point de vue. Et nous sommes aujourd'hui, il faut savoir que pour l'éducation nationale, cette lutte contre le harcèlement, c'est la priorité P++++. Hein. Donc, il y a une volonté aujourd'hui de, maintenant, ça, c'est terminé, il faut écouter, entre guillemets, la victime. Ce n'est plus lui qui doit, entre guillemets, se forcir, etc. Non, non, c'est il doit pouvoir, entre guillemets, être dans l'établissement sans avoir à craindre le moindre propos perturbateur, ne pas accepter le moindre coup, quoi que ce soit. C'est un droit fondamental de chaque élève de pouvoir suivre tranquillement, calmement, sa scolarité sans avoir à craindre des menaces, sans avoir à craindre des coups de la part d'autrui. Hein. D'où le changement. Et là, tout le monde y met, tout le monde y met du sien. C'est pour ça que dans les établissements, comme le rappelait M. Andrés maintenant, il y a phare qui est maintenant présent et qui fait que de plus en plus de personnes vont s'emparer du problème. Et on va découvrir sûrement de plus en plus de cas. Parce qu'effectivement, peut-être qu'un certain nombre de jeunes jusqu'à présent n'avaient pas spécialement confiance, ont des craintes. Et plus on va en parler, plus on va mettre en place des actions. Et peut-être, et du moins c'est ce que l'on espère, plus de jeunes vont venir nous parler et on va résoudre des problèmes pour tout simplement apprendre à vivre les uns avec les autres.
Est-ce que vous, les ambassadeurs, vous avez prévu de faire des informations par rapport à d'autres classes ?
Oui, c'est prévu, notamment, je crois, en fin d'année, qu'on est censé passer dans toutes les classes de seconde pour parler du harcèlement, tout ça, leur faire, on va dire, une petite heure où on va leur expliquer toutes les conséquences, ce que le harcèlement signifie, tout ça. Pour discuter avec eux et avoir une approche avec eux de eux aussi, de leur vision, et peut-être après avoir des débouchés sur des situations pour lesquelles on n'avait pas des solutions.
Des méthodes.
Ouais, des méthodes.
Aujourd'hui, donc, c'est donc la journée internationale contre le harcèlement. Et donc, par effectivement ce podcast qu'on vous fait et qu'on vous diffuse au lycée, c'est une approche pour vous sensibiliser au harcèlement. Il y aura d'autres projets mis en place. Je pense qu'on refera un podcast où vous pouvez potentiellement nous appeler en anonyme et on vous aide, on répond à vos questions, on vous guide, on vous éclaire. D'autres activités aussi, normalement, que vous avez eues dans la journée, comme un escape game, vous allez regarder des vidéos. J'espère que ça vous fera prendre conscience en tant que simple personne lambda, en tant que harceleur, en tant que témoin et en tant que victime, prendre conscience que c'est important d'en parler, c'est important d'agir positivement contre cette lutte nationale.
Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire quand tu dis « il faut agir ». Donc, il y a effectivement la cible, elle qu'elle vient de nous parler, mais les témoins, s'il vous plaît. Ceux qui, dans les classes, voyaient des choses, parce que nous n'y sommes pas, ou dans les transports, quand vous prenez le bus, quand vous voyez qu'il y a des plaisanteries, mais qui ne font pas rire la personne à qui elle s'adresse, n'hésitez pas, intervenez. Alors, vous pouvez intervenir de différentes façons, hein, on ne vous demande pas d'être Zorro, mais éventuellement, vous allez parler avec la cible. Vous venez en parler peut-être à d'autres adultes en disant « voilà, moi j'ai vu quelque chose de particulier, ça me gêne, pas de problème ». Voilà. Et nous, à ce moment-là, on interagira. Mais surtout, le harcèlement, c'est vraiment la problématique de tous. C'est pas une personne qui souffre, c'est nous, qu'est-ce qu'on fait quand on voit effectivement un camarade en souffrance ? Est-ce qu'on se tait ? Ou est-ce qu'à un moment donné, on tend la main ? Et on souhaiterait que dans notre établissement, il y ait une grande majorité de jeunes qui aient envie de tendre la main.
J'aimerais juste rajouter qu'au niveau de la loi aujourd'hui, ceux qui sont témoins de harcèlement sont jugés au même niveau que ceux qui sont les agresseurs, on peut dire. Les harceleurs.
Là, on va préciser surtout les témoins actifs. Mais oui. Enfin, témoins actifs vis-à-vis de celui qui agresse, celui qui rigole. Donc, parce que son camarade vient faire une plaisanterie de très très mauvais goût vis-à-vis de quelqu'un. Donc, et qui, peut-être le lendemain, va lui aussi se dire, puisque mon copain l'a fait, je vais aussi, moi, lancer une plaisanterie, etc. Donc, il n'est pas, a priori, l'initiateur, mais il est dans la mouvance de celui qui a raconté des choses pas sympathiques. Il encourt, effectivement, au jour d'aujourd'hui, des peines aussi lourdes que s'il avait été l'instigateur.
Et puis, un témoin qui ne parle pas, qui laisse faire les choses, etc., c'est considéré comme un complice. Il va vraiment regarder la scène et s'il ne fait rien, il est complice de la scène, quoi. C'est vraiment hyper important d'en parler parce que ça peut aller super loin. Et je pense que si la personne, si la victime, on ne lui a jamais dit qu'on était là pour elle et que là, juste, on vient lui dire qu'on est là pour elle ou qu'on vient en parler et qu'on l'aide un minimum... Juste cette petite chose peut faire que la personne se sente juste un peu mieux et c'est déjà le début d'une grande avancée et c'est hyper important. Et donc voilà, c'est juste super important d'en parler si on le voit.
Vous exercez une des trois valeurs de la France, valeur républicaine, la fraternité. C'est important. Voilà, il faut l'avoir à l'esprit. C'est une belle chose.
Est-ce qu'on peut rappeler les différents types de harcèlement qui existent ?
Alors, donc il y a le cyberharcèlement donc qui se produit sur les réseaux sociaux. Il y a le harcèlement sexuel et sexiste. Donc là, c'est quand on va insister avec une personne pour avoir certaines relations sexuelles ou ce genre de choses. Le harcèlement moral. Donc ça, ce sera donc dans la vie réelle, où donc la victime va se recevoir certaines critiques ou de l'incitation au suicide, ce genre de choses.
Oui, alors et au lycée, qu'est-ce que vous diriez, quelle est la forme de harcèlement qui prédomine le plus?
Alors je pense que c'est l'harcèlement sexuel et le cyberharcèlement, de mon point de vue. Parce que l'harcèlement sexuel, c'est là où on commence à se construire, à se découvrir, etc. Donc c'est possible qu'il y ait des gens qui trouvent ça drôle de faire du chantage ou de se venger avec des photos dénudées d'une personne, ce genre de choses qui sont totalement horribles. Et cyberharcèlement, parce que c'est là qu'on a les réseaux sociaux, on est à l'aise avec nos téléphones, on pense qu'on est caché derrière un téléphone, que ça ne va pas nous retomber dessus. Et c'est plus simple de s'en prendre à une personne derrière un téléphone qu'en face. Donc je pense que c'est les deux harcèlements qui dominent au lycée.
Je pense aussi que c'est vraiment surtout l'harcèlement sexuel et surtout sexiste. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a vraiment énormément d'hommes en fait, qui font vraiment beaucoup de blagues sexistes sur les femmes. C'est-à-dire que vraiment, je pense que toutes les femmes, tous les jours, reçoivent au moins une blague sur le fait qu'elles devraient retourner à la cuisine ou ce genre de choses. Et donc ça, c'est vraiment considéré déjà comme du harcèlement. Et c'est sexiste.
Je suis totalement d'accord avec ce qu'ont dit mes camarades. Effectivement, le harcèlement physique est moins présent parce que effectivement, ça se voit. Maintenant, en tout cas, je l'espère grandement, qu'à notre génération, une personne qui se fait agresser, d'autres personnes témoins vont arrêter la chose. Donc le harcèlement physique est bien moins présent. Le harcèlement moral, je le rejoindrai effectivement au cyberharcèlement et au harcèlement sexuel par les critiques, les injures sexistes, sexuelles, les incitations. Comme Lilou le disait aussi, incitation au suicide, incitation et chantage pour faire des nudes, de ce genre de choses. Donc je dirais que les trois, le cyberharcèlement, le harcèlement sexuel, sexiste et le harcèlement moral, sont très présents, surtout au lycée.
Alors l'autre gros inconvénient, entre guillemets, du harcèlement, du cyberharcèlement, comme on dit, c'est un harcèlement non-stop. C'est-à-dire que le harcèlement dit classique qu'on retrouve peut-être à l'école primaire, déjà les pauvres élèves confrontés à ça, c'est 6 heures dans la journée. Mais quand on rentre à la maison, on a peut-être un petit espace où on peut respirer. Le cyberharcèlement, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que j'ai des critiques sur mon téléphone pendant les heures de cours. Je rentre à la maison, ça continue. Donc, effectivement, c'est d'une violence incommensurable. Donc là, pareil, 30-18, surtout ne pas hésiter. 30-18, il faut savoir, je suis embêtée sur les réseaux. Donc c'est, je ne sais plus l'organisme qui est derrière, mais comme on dit, ils ont pignon sur rue. Ça veut dire qu'eux ont des contacts avec Twitter, avec les différents réseaux, etc. Et en quelques heures, ils peuvent faire en sorte que le réseau où y a des insultes, etc., ont été dites, ou des propos sexistes, soit, entre guillemets, enfin, que la personne qui a dit ça sur des réseaux soit bloquée, complètement bloquée. Mais il faut faire cette démarche. Alors, il y a un... Comment dire, c'est pas sur... Voilà, on m'a dit que... On leur envoie des preuves, mais ça se passe très, très rapidement. Il y a un formulaire à remplir. Et une fois que ce formulaire est rempli, je vous dis, en 2 heures de temps, la personne qui a prononcé des choses terribles, elle sera bloquée sur ce réseau. Donc, ça vaut vraiment le coup.
Vous, en tant que professeur, vous avez déjà eu affaire à des cas comme ceci ?
Alors, moi, on n'est pas venu me solliciter directement par rapport à ce type de cas, mais par contre, je sais qu'il y a eu des cas de cyberharcèlement. J'en dirai pas plus pour l'intimité des élèves qui ont pu être concernés, mais c'est juste glaçant, en fait, c'est effroyable.
Je reviens exactement sur ce que vous venez de dire quand on dit « faites attention à ce que vous envoyez à... » à vos amis, etc., à ne pas faire confiance à n'importe qui. on vous dit pas, enfin je pense que vous serez d'accord, on vous dit pas que parce qu'un de vos amis a envoyé une photo qu'il fallait pas, c'est de votre faute parce que vous avez pas fait attention. C'est pas le cas. C'est, j'ai envie de dire, c'est de la faute de l'irresponsabilité de votre ami, qui est en réalité pas votre ami, parce que sinon il ne l'aurait pas fait, d'avoir envoyé cette photo. C'est pas de votre faute. C'est, vous n'êtes pas responsable de votre harcèlement et en aucun cas, peu importe la situation.
Oui, tout à fait. En fait, c'est pas parce que vous envoyez une photo à un moment donné, admettons dans une relation amoureuse, un petit couple, vous envoyez des photos, bon, le couple, un beau jour, ne tient plus la route. Si, par à l'avenir, une photo est utilisée contre vous, c'est pas de votre faute et il faut pas justement vous dire « Oh là là, je vais rien dire parce que j'ai envoyé la photo ». Non, personne n'a le droit d'utiliser votre photo de manière malsaine. Et de sorte à vous persécuter.
Je vais plus loin même. On n'a pas le droit d'utiliser la photo de quelqu'un sans son autorisation. Mm-hmm. Voilà. À partir du moment où on prend une photo et quelque part on la vole par rapport à son but originel, à ce moment-là, on est en tort. Et il y a des peines de prison. Hein. Les peines sont très très lourdes en ce qui concerne le cyberharcèlement. Alors, juste pour mémoire, quand l'auteur du cyberharcèlement est majeur, la peine peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, ce qui est quand même énorme. Hein. Si par contre l'auteur était plus jeune de 13 ans, là ça dépend de l'âge de la victime, donc soit une victime plus âgée que 15 ans, ou une victime moins âgée que 15 ans. Mais là, pareil, ça peut aller au maximum jusqu'à 18 mois de prison et 7500 euros d'amende. Donc, c'est comment dire, très lourdement puni. Alors, vous faisiez référence, je vais le dire avec mon anglais, au revenge porn. Et c'est vrai qu'il fait énormément, énormément de dégâts. Parce que certaines personnes, pour se venger, entre guillemets, de leur ex, vont reprendre des photos qui avaient été envoyées dans un contexte très privé, ne vont pas demander à la personne concernée « Est-ce que tu acceptes que je prenne ta photo et que je la distribue à des milliers de gens ?» Et là, le mal est fait, quoi. Et c'est vrai que... donc là, le conseil de toute façon qu'on vous donnera toujours, hein, ça sera ce 30-18 hein, pour faire en sorte qu'on arrête la propagation, entre guillemets, de la photo. Mais à ce moment-là, on préconise aussi, hein, sachez-le, donc ça, il faut que tout le monde l'entende, à un moment donné, une plainte à la gendarmerie. Hein. Là, voilà, des fois, ça dépasse la limite de l'entendement. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ça non plus.
Je suis complètement d'accord pour même la plainte ou même une main courante. Mais aussi, ce qui est important avec le 30-18, c'est que forcément, quand ça nous arrive, qu'il y a des photos de nous dénudées qui tournent ou qu'on n'a pas envie qu'ils tournent, on n'a pas forcément envie que nos parents soient au courant, surtout à notre âge, etc. Et ça peut être hyper compliqué pour nous d'en parler aux parents ou que les parents ils soient au courant parce qu'on ne sait pas leur réaction et puis on a honte, on se sent humilié, etc. Donc, je pense que le 30-18, c'est vraiment une bonne solution d'appeler. Et il ne faut vraiment pas attendre. C'est super important de le faire directement parce que ça peut aller vraiment super loin.
Super. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter des choses? Je pense que là, on a donné un maximum d'informations hein, à tous nos, comment dire, à toutes les personnes qui vivent dans cet établissement. Hein. Donc, vous êtes confrontés à un type d'harcèlement, quel qu'il soit, surtout, c'est ça qu'il faut garder, je crois, en mémoire, vous ne restez pas seul. Mmh. Et maintenant, donc, on a progressé, comme je le disais, hein, dans notre façon d'aborder aussi cette problématique. Madame Owers le disait, donc elle fait partie de ces enseignants qui ont été formés, il y a des personnes formées, donc on est peut-être un tout petit peu plus, je ne dis pas qu'on sera efficace à 100%, loin s'en faut, mais on tiendra un petit peu mieux la route qu'il y a quelques années, donc surtout, venez nous en parler.
Oui, moi j'avais une petite question pour les ambassadeurs et pour vous, Madame Arnoldi. Voilà, moi je suis élève de seconde et en cette journée nationale contre le harcèlement, j'écoute le podcast et je me dis, waouh, en fait j'aimerais bien m'engager. J'ai envie de m'engager. Est-ce que c'est trop tard pour s'engager cette année, Madame Arnoldi? Est-ce que je dois attendre l'an prochain pour être formée? Et si oui, comment je fais pour me manifester? À quel moment?
Alors, très bonne question. Le problème, on est obligé, je suis obligée à un moment de clôturer les, comment dire, les demandes des élèves. Parce que, comme on l'a dit, être ambassadeur, c'est une responsabilité. Donc, on s'assure qu'ils aient une formation. Et une fois que la formation a été passée, c'est vrai que c'est toujours plus délicat de pouvoir intégrer le groupe des ambassadeurs. Cette formation, elle est donnée par des gens de l'extérieur, hein, par l'équipe mobile académique de sécurité, donc qui, depuis plusieurs années, nous font l'honneur hein, et la gentillesse de venir former nos ambassadeurs. Donc, une fois que cette formation est passée, après, ça devient très compliqué de pouvoir intégrer. Je pense que c'est très important. Je veux que les ambassadeurs et que tout le monde sache, voilà, on est ambassadeur parce que, et vous allez en parler, il y a une motivation, donc ça c'est très important, mais aussi parce que on a une formation, on va pas faire tout et n'importe quoi en tant qu'ambassadeur. Donc malheureusement, la formation est passée. Donc, pour cette année, on restera l'équipe qui, donc, vous êtes au nombre de 13. Par contre, quelquefois, on peut intégrer un ou deux élèves supplémentaires sur la création des outils. Mais pour tout ce qui sera contact avec les élèves, ça ne sera que les ambassadeurs formés.
Après, on n'est pas obligé de s'engager à devenir ambassadeur, même si vous n'avez pas la formation. Rien ne vous empêche d'agir. On l'a dit déjà tout à l'heure, c'est important d'agir quoi qu'il arrive. Donc si vous êtes témoin, agissez. Si une personne vient se confier à vous et pas à nous qui sommes ambassadeurs, bah très bien, conseillez-la comme vous pouvez. Et si vous voyez que ça vous dépasse, et bah redirigez-la vers nous ou vers les professeurs concernés, vers directement aussi nos CPE, vers la vie scolaire, vers des gens qui ont une formation adéquate pour aider vos amis, pour aider les personnes qui sont en difficulté et qui viennent vous voir malgré vous. Je vais dire ça comme ça.
Du coup, ma deuxième question, c'était pour les ambassadeurs qui sont présents. J'aurais bien aimé savoir ce que ça représente pour vous, parce que vous avez quand même des emplois du temps bien chargés. Il y en a parmi vous, certains d'entre vous sont en classe de terminale. Donc voilà, c'est des années quand même qui sont rythmées par les cours, les devoirs. Il y a beaucoup de choses, peut-être passer le permis, que sais-je, ou des ambitions sportives. Ça représente quoi comme investissement pour vous? Combien de temps est-ce que vous dédiez à votre rôle d'ambassadeur? Et est-ce que vous le faites avec plaisir ou est-ce que c'est quelque chose de lourd à porter?
Après, bon, là, c'est le début de l'année, donc je pense qu'on n'a pas forcément conscience de l'ampleur que ça va avoir, même si on est quand même au courant qu'il faut un certain travail, etc. Mais après, je pense qu'on considère pas, enfin, moi, personnellement, je le considère pas vraiment comme du travail parce que je fais ça avec envie et que je trouve ça hyper important et que j'y suis de bon cœur, donc je suis pas forcément, je suis pas dans un travail, je suis plus dans un plaisir que de me dire que je vais pouvoir aider des gens et que voilà, c'est cool quoi.
En termes de temps, je dirais que moi j'apporterai le temps nécessaire qu'il faut pour aider chaque élève en difficulté, pour s'il faut y passer des heures et des heures pour que le lycée entier comprenne que c'est une cause importante, qu'il faut absolument défendre et qu'il faut arrêter de banaliser le harcèlement, on le fera. Quoi qu'il arrive, on mettra en place différents moyens, voilà, comme là par la web radio, on fera d'autres affiches s'il le faut, on vous fera des films, on vous les diffusera jusqu'à ce que vous compreniez que c'est important d'agir et de pas rester dans l'ignorance ni dans l'isolement pour les victimes.
Je suis totalement d'accord. C'est pas vraiment un travail, c'est plus un plaisir pour nous de pouvoir vous aider. Donc ça nous prendra jamais trop de temps parce que on est là parce qu'on l'a choisi.
Je crois qu'on a mesuré votre détermination et ça fait vraiment plaisir à voir à quel point vous êtes motivé à aider, c'est admirable.
Alors c'est vrai qu'en tant qu'ambassadeur, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début de l'émission, mais c'est vrai que je suis également ambassadeur. Moi je me souviens d'un cas assez particulier l'année dernière où je devais aller en cours mais une personne n'allait pas bien, j'ai priorisé la personne qu'au cours. Donc je ne vais pas vous mentir que moi, à mon avis personnel, mais je pense que tout le monde ici sera d'accord avec moi, qu'une personne, le mal d'une personne doit passer bien avant le cours, quel qu'il soit.
On est d'accord.
Eh bien, j'ai énormément apprécié hein, ce moment passé autour de cette table où chacun a pu s'exprimer. en souhaitant vraiment que voilà, la motivation de chacun d'entre nous vous soit bien parvenue, hein, et que voilà, la plus belle réponse qu'on puisse avoir, c'est si cette année, on sent qu'il y a de la confiance entre les élèves, les ambassadeurs, l'équipe ressources, ça sera extraordinaire. Voilà, faire en sorte qu'on avance ensemble, main dans la main, et non pas les uns contre les autres. Madame Howard, je trouve que vous faites des bonnes conclusions.
Alors là, je suis prise au dépourvu. J'aurais aimé trouver une jolie phrase avec une rime. Pourquoi pas en anglais ? Mais
Non,
tout simplement, voilà, on va prenons un petit peu de hauteur. La vie, qu'est-ce que c'est ? La vie, ça passe super vite. La vie, c'est quelque chose. Votre temps au lycée, il est précieux. Vous allez, moi, je vais utiliser mon regard de prof pour répondre à ça, mais les élèves, on les voit défiler, ça passe à une vitesse incroyable. On est déjà de retour des vacances de la Toussaint, et puis en fait, tout passe tellement vite. On n'a pas de temps à perdre avec des choses aussi basses et ridicules que de se tirer dans les pattes les uns des autres. La plupart d'entre vous, après le lycée, vous ne vous fréquenterez même plus, vous allez passer à autre chose. Donc pourquoi perdre votre temps à aller taquiner, embêter des autres ? Il y a tellement de belles choses à faire. Il y a du sport, il y a plein d'activités créatives, il y a de la beauté partout autour de nous. Moi, je vais vous proposer une chose. Soyons un petit peu poètes profitons du temps qu'on a ici pour s'émerveiller, pour vivre dans la joie, dans le moment présent, plutôt que d'aller chercher à embêter d'autres personnes, plutôt que d'être jaloux, plutôt que de se moquer, plutôt que de se fédérer autour d'une énergie négative au détriment d'une autre personne. Quel est l'intérêt ? Utilisez votre énergie pour faire de belles choses, pour vous dépasser, pour vous surprendre, créer des projets, venez animer une émission à la web radio, venez...
Devenez ambassadeur.
Voilà, devenez ambassadeur, lancez un club, allez vous promener, faites du sport. Mais... voilà, ne perdez pas de temps avec des choses aussi, aussi inutiles. C'est mon conseil que j'aurais à vous donner.
Merci beaucoup. On remercie chaque personne qui sont venues, que ce soit prof, ambassadeur contre le harcèlement, mais également proviseur et CPE du lycée. On espère vraiment qu'on vous aura donné envie de vous battre contre cette cause. Alors, pour vous, on rappelle donc que les numéros à appeler, donc c'est bien le 3018 et le 3020, que les ambassadeurs à contacter, si vous êtes dans le mal, c'est Cerise Lilou. Alors, il y a deux Lilou, Lilou Molina et Lilou Monier-Toumino, mais également Elisa qui est ici. Non. Et il y avait Manon, et il me manque des prénoms.
Il y en a Dina, il y a Dina.
Oui.
Corentin, Adam, Angèle, Jules.
Ils sont tous sur la jolie affiche.
Voilà,
que vous trouverez en vie scolaire ou sous préau.
Voilà, et on remercie également les professeurs qui se joignent contre cette cause et les CPE aussi qui sont là, le proviseur qui est là.
Voilà,
j'ai rien d'autre à ajouter. Merci beaucoup. Si vous voulez, si ce podcast vous a plu, je vous invite à suivre l'évolution de la web radio sur son site, également sur son Instagram. Discord également, et c'est tout. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.